Et bonjour Martine Vallon, présidente du FNE 04 France Nature Environnement.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va parler, bien sûr, représenter rapidement le FNE 04, ce que c'est, et parler du thème retenu pour le festival Inventaire, le festival de la biodiversité, qui va se dérouler du 7 au 10 juillet prochain à Digne.
Oui, alors FNE 04, donc c'est la Fédération départementale France Nature Environnement, donc une association d'associations, puisque nous fédérons un certain nombre d'associations sensibles à l'environnement ou qui souhaitent travailler dans ce secteur ou s'intéresser plus particulièrement à l'environnement. Et nous faisons partie donc de la grande fédération nationale France Nature Environnement et sommes affiliés aussi à France Nature Environnement PACA, donc la fédération régionale des associations de protection de l'environnement. Alors on a, je dirais, une mission de service public dans le domaine de l'environnement avec de multiples actions, que ce soit d'information, de formation, de sensibilisation, des actions pédagogiques en direction aussi des élus, par exemple. Tout un domaine où on intervient aussi, soit juridiquement lorsque certains projets ou certaines atteintes à l'environnement sont répertoriées. Donc nous pouvons aller en justice pour poursuivre les contrevenants. Voilà, globe, très succinct.
Cette année, donc, au fil de l'eau, c'est le thème d'inventaire et vous allez intervenir... on va voir donc dans le programme à partir de vendredi 8 juillet quelles sont les interventions qui sont prévues avec le FNE 04.
Alors effectivement nous participons donc depuis plusieurs années déjà au Festival Inventaire et cette année plus particulièrement dans la mesure aussi où nous sommes partenaires du contrat de rivière Bléone, donc on intervient aussi avec ce cadre là. Alors, durant tout ce festival, donc, qui dure plusieurs journées, qui démarre donc le 7 juillet, nous, on interviendra à partir du 8, le vendredi 8 juillet, avec une sortie, une balade pédagogique, je dirais, qui se passera sur le secteur des Dourbes, donc, qui est un des bassins versants de la Durance et de la Bléone. Et donc, cette sortie est intitulée « Entre forêt et rivière ». Et en fait, la thématique et l'objet de la sortie sera de voir sur le terrain quels sont les aspects et les apports de la forêt par rapport aux rivières. C'est-à-dire que sur le secteur des Dourbes, il y a un hameau dont l'eau potable ne nécessite pas de traitement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de besoin de potabiliser de l'eau, dans la mesure où c'est la forêt qui rend ce service-là. C'est la fonction naturelle aussi d'une forêt que d'assainir les eaux. Et donc là, c'est particulièrement visible.
D'où l'importance d'avoir des arbres.
Tout à fait. Et de conserver nos forêts, oui. Donc on interviendra aussi samedi 9 juillet. Avec un jeu que nous menons régulièrement, qui est un jeu sous la formule « Question pour un champion », donc qui reprend un peu ce type de jeu interactif avec le public.
Alors justement, on reviendra aussi, puisque vous l'avez déjà testé lors de Cité Solidaire en mai.
Tout à fait.
Savoir si ça a eu un bon succès, si les gens avaient un niveau... la moyenne ou pas?
Alors, c'est compliqué parce qu'effectivement, on a quelques questions qui sont peut-être des questions un peu pour des...
Initiés.
Pas vraiment des spécialistes, mais je dirais des initiés, oui. Et donc, qui maîtrisent les acronymes et puis les divers éléments de vocabulaire ayant trait à ces questions-là. Et c'est vrai que ce qui nous paraît très simple pour nous, environnementalistes de longue date, peut parfois... poser des problèmes au public habituel. Alors, ce qui marche très très bien dans ce jeu, et ce qui a bien fonctionné encore cette fois-ci, c'est lorsque les enfants participent aussi. Donc, les enfants qui arrivent à motiver quelques adultes pour venir jouer avec eux, et donc là, les uns et les autres se prennent plus facilement au jeu de la concurrence, et donc ça donne beaucoup d'animation.
Alors, est-ce que les enfants sont plus compétents, naturellement?
Pas forcément, ouais. Non. Mais ils sont toujours très, très attentifs
et curieux.
Et
toujours.
Curieux. Donc, voilà, ça permet aussi, là, de, ben, après, de donner des réponses. Et c'est vraiment un outil pédagogique, je dirais, très agréable.
Donc ça, ce sera Question pour un champion, samedi matin devant l'Atrium.
Oui, voilà. Donc samedi 9 juillet, le matin devant l'Atrium. Et il y aura aussi une séance l'après-midi sur la place du Général de Gaulle. Donc on fait deux séries de jeux. Il y a des petits lots à gagner, bien sûr, comme dans beaucoup de jeux, pour les enfants ou pour les adultes qui participeront. Ensuite, on a aussi une exposition à la médiathèque qui se tiendra donc durant la journée du vendredi et du samedi. Et c'est une exposition de travaux qui ont été effectués par des élèves du Sacré-Cœur dans le cadre de notre programme pédagogique « La rivière Madi ». Donc nous avons un programme spécifique qui est en direction des enfants des écoles primaires qui se comporte de temps de théorie en classe et puis de visite sur le terrain. Donc les enfants sont amenés sur une rivière pour y découvrir toute la vie, tout ce qui toutes les petites bêtes que l'on peut trouver dans une rivière, et ensuite donc ils font tout un travail autour de ces journées-là.
Donc ça fait partie des missions aussi du FNE, oui. C'est d'intervenir dans les classes.
Alors oui, nous avons, disons que là c'est un programme qui est en cours d'achèvement, qui avait été financé par l'État, par l'agence de l'eau. Et par l'ADREAL, donc qui consiste effectivement à se rendre donc dans les classes pour sensibiliser les élèves et les former à la vie et à l'importance de la vie dans la rivière. Donc à l'heure actuelle, donc cet outil est toujours utilisable, mais maintenant nous recherchons des écoles et des communes ou des communautés de communes qui seraient susceptibles de payer les interventions, puisque le financement qu'on avait pour ça à l'heure actuelle se termine. Mais on espère bien pouvoir continuer quand même, parce que c'est vraiment un programme qui est très intéressant pour les enfants et sur lequel les institutrices et les instituteurs peuvent travailler par la suite pour poursuivre la réflexion. C'est une base qui, en général, trouve un écho très favorable. Voilà. Et puis, on aura, bien sûr, le stand de FNE qui sera aussi à la médiathèque le vendredi et le samedi, qui nous permet de répondre aux questions et d'aller à la rencontre de nos adhérents ou d'accueillir de nouveaux adhérents, puisqu'on espère toujours qu'à l'occasion de ces événements-là, on arrivera à rentrer un peu plus en contact avec du public nouveau et avec des gens qui ensuite pourront nous aider à continuer l'activité de l'association.
Alors pour les adhérents, n'importe qui peut devenir adhérent, ou c'est les associations essentiellement? Comment ça se passe?
Non, c'est les deux. Tout le monde peut adhérer à titre individuel. Donc on a une adhésion modeste qui est à 10 euros à l'heure actuelle. Et donc pour les individus. Et puis aussi, donc, puisqu'on est fédération d'associations, toute association peut adhérer, même si elle n'est pas spécifiquement dirigée vers l'environnement, en fait, puisque ensuite nous proposons aussi des moments de formation pour nos associations adhérentes. Nous organisons des journées de réflexion sur les différentes thématiques, que ce soit les questions de forêt, de rivière, que ce soit les problèmes d'urbanisme, etc. Nous faisons des formations à destination de nos adhérents, quels qu'ils soient. Donc une association qui adhère et qui a parmi ses membres quelqu'un qui est plus intéressé par l'environnement ou qui veut faire le lien peut être tout à fait apte à venir et à nous rejoindre.
On va revenir à des questions qui peuvent paraître vraiment... La gestion de l'eau et les problématiques dans le département.
Oui. Déjà, il faut savoir qu'il y a 24 rivières dans le département, dont un fleuve, le Var, qui fait un petit passage au niveau d'Entrevaux. Mais donc, beaucoup de rivières, avec une spécificité donc des rivières qu'on appelle de régime méditerranéen, donc avec des débits aléatoires, donc des cours d'eau qui ont à certains moments qui rentrent en crue et qui dévastent tout, et puis à d'autres moments qui semblent à sec. Et donc qui ont l'air d'être juste des lits de cailloux, mais en fait qui sont des rivières. Aujourd'hui, au niveau de la France et au niveau de l'Europe, en fait, la problématique de l'eau est vraiment prise en compte depuis de nombreuses années. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première étant que déjà, il y a eu une augmentation de l'utilisation de l'eau, une augmentation des besoins. Donc on est sur une ressource qui est aléatoire, qui est fluctuante, et on en demande toujours un petit peu plus. Donc ça, c'est une des raisons. L'arrivée des perturbations, le changement climatique qui se met en place, fait que cette ressource-là va encore subir quelques dégradations. La pollution fait aussi que c'est une ressource qui subit des atteintes. Et donc, il est nécessaire, à partir de là, effectivement, de mettre en œuvre un certain nombre de procédures ou de lois qui permettent de conserver cette ressource et de pouvoir l'utiliser à plus long terme.
Et on a vu une conférence interactive récemment au Cinétoile avec Biosphère et c'était vraiment très intéressant et en même temps c'est assez inquiétant quoi, puisque l'eau potable on peut utiliser, il y en a peu sur la planète finalement.
Tout à fait, oui. Et donc, c'est d'autant plus un trésor à préserver, je dirais. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose dont on prend de plus en plus conscience. Effectivement, il y a de nombreux... Par exemple, le festival Inventaire avec cet axe sur l'eau, ça n'est pas innocent. C'est vraiment aussi parce que à l'échelle locale, il y a un souci autour de ces questions-là et un désir justement d'amener chacun à se positionner, à prendre conscience et à se responsabiliser sur cet aspect-là. Alors, en France, les premiers pas, je dirais, importants ont été faits avec la loi sur l'eau en 1990, donc qui a donné des premières procédures de mise en œuvre et notamment ce qu'on appelle aujourd'hui l'ESDAGE, c'est-à-dire le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Donc l'ESDAGE, c'est une organisation, c'est un contrat, c'est un schéma qui se met en place à partir donc des directives de cette loi sur l'eau et à travers une organisation de gouvernance, j'allais dire, qui est un comité de bassin. Donc le comité de bassin, il est composé des élus, des représentants de l'État, des représentants des usagers importants tels que les agriculteurs ou les industriels, et des représentants des associations de protection de l'environnement en règle générale. Et donc ces comités de bassin essayent de définir une sorte de partage équitable de la ressource, une organisation qui permet, et puis aussi... Le terme, l'objectif qui est
de ce schéma,
c'est la gestion équilibrée et durable. Donc l'idée, c'est effectivement de partager la ressource entre les différents utilisateurs de façon équitable, de façon équilibrée, mais aussi de la conserver et d'éviter de polluer, d'éviter de diminuer cette ressource, enfin, et d'essayer de conserver ce qu'on appelle un bon état écologique des cours d'eau. Et donc, la loi de 90 a été suivie ensuite par une directive européenne en 2000 qui donne les grands axes donc, de ces stages. Donc, avec tout d'abord un plan de gestion du bassin versant, de ce qu'on appelle le bassin versant.
Alors, qu'est-ce que c'est le bassin versant ?
Donc, le bassin versant, c'est... je dirais c'est une zone géographique qui est délimitée par les lignes de crête et c'est la portion de territoire qui est irriguée par un même réseau donc c'est la rivière et puis tous ses affluents jusqu'à la ligne de crête donc tout ce qui va arriver dans cette rivière et ce bassin se termine par ce qu'on appelle l'exutoire, c'est-à-dire le point de sortie naturel. Donc on a les deux versants, par exemple, des collines qui arrivent dans la rivière et la rivière au bout qui va se jeter dans une autre rivière, par exemple. Et donc l'exutoire de ce bassin versant, c'est l'endroit où la rivière se jette dans une autre. Et ensuite, on a la même chose qui se reproduit de rivière en rivière jusqu'à la mer, et jusqu'au fleuve et jusqu'à la mer. Et donc, en fait... Le bassin versant, c'est cette zone qui va avoir un impact sur les eaux de la rivière par tout ce qu'on peut y faire. Mmh. Donc toutes les activités humaines, les constructions, le village qui est dans un endroit de ce bassin versant, ou bien les champs et comment ils sont cultivés, les produits qu'on peut mettre à l'intérieur, qui vont percoler, qui vont aller jusqu'à la rivière, etc. Donc toutes ces activités, ou bien les activités industrielles, les risques de pollution d'une station-service, etc.
Tout ce jusqu'aux peut. Petites choses qui peuvent... Les gens qui lavent leur voiture dans une rivière...
Ou sur le bord, ouais. Sur la rue, et ça va repartir dans les terrains, etc. Donc, en fait, toutes ces perturbations multiples vont avoir un impact, bien sûr, sur l'état de l'eau de la rivière. Et donc, le stage, c'est ce qui est mis en place pour gérer justement ce bassin et cette gestion de l'eau et à la fois essayer de mettre en place des mesures pour éviter les pollutions ou des mesures pour compenser ou pour réaménager, ramener l'état écologique souhaitable dans l'eau. Donc, effectivement, on a un certain nombre d'actions qui vont être mises en place pour réaménager ces rivières de façon à ce qu'elles remplissent leurs fonctions au mieux. Donc, il y a le plan de gestion et puis ensuite, donc l'idée du bon état écologique, logiquement, il devait être atteint en 2015. Bon, je pense qu'on n'est pas, au top sur toutes les rivières, bien sûr. Mais on voit déjà que sur les rivières où des actions ont été mises en place, il y a des améliorations. Et puis...
Alors, c'est quel type d'actions qui sont mises en place ?
Alors, par exemple, on a... sur la question donc des services que peuvent rendre la rivière, par exemple, on a donc cette nécessité mettons pour les poissons. Nous avons des rivières sur lesquelles il y a à certains endroits des poissons et d'autres où il n'y a plus de vie aquatique, piscicole. Et donc, l'intérêt, par exemple, dans certains cas, on recrée, il y a eu des barrages qui ont empêché la circulation des poissons, mm-hmm. qui ont fait que à certains tronçons de rivière, il n'y a plus rien. Donc, on recrée, alors, dans certains cas, on recrée des passes à poissons. Dans certains cas, on va détruire ce qu'on appelle certains barrages qui ont été faits ou qui font certaines digues qui ont un peu bloqué le cours de la rivière. On va essayer d'arraser ce qu'on appelle les seuils, donc pour que effectivement l'écoulement de la rivière redevienne un peu plus naturel et du coup repermette la circulation des poissons et des petits insectes, enfin de tout ce qui peut vivre et remonter le niveau de vie de l'eau. Ce qu'il est possible de faire. Bon, par exemple, chose toute simple, il y a un certain nombre d'années en arrière, la plupart de nos décharges étaient sur le bord des rivières. Donc grâce aux lois sur l'eau, on a arrêté ce phénomène-là et on a interdit de jeter et de mettre des détritus. Oui. Et donc la gestion des déchets plus organisée et plus raisonnable, je dirais, fait que il y a une amélioration forcément de l'état de la rivière puisqu'on n'y rejette plus ces choses-là. Il y a enfin un certain nombre de mesures comme ça qui
donc
qui
ça font. C'est plutôt encourageant, c'est plutôt positif, ça oui. fait plaisir de savoir qu'on peut améliorer
tout à fait oui. Et que les choses ne sont pas perdues et qu'effectivement la nature est vivante et il y a un phénomène de résilience qui peut se mettre en place et donc un cours d'eau qui était dans un état écologique déplorable, si on fait attention de ne plus y rejeter de produits toxiques, si on réaménage un certain nombre de choses, si on laisse la ripisylve par exemple donc reprendre une place avec s'il y a une forêt aussi qui vient en amont nettoyer les eaux, etc. Effectivement, il y a une amélioration possible. Donc en fait, ces éléments-là, enfin ces schémas qui peuvent paraître un peu restrictifs, un peu trop encadrés ou bien sont là pour, au contraire, permettre à la ressource de conserver son état ou de le retrouver et permettre aussi à la population de bénéficier de ces services qui sont rendus par les rivières. Aujourd'hui, pardon, on appelle ça des services écosystémiques. C'est-à-dire que le service écosystémique de la nature, c'est le bénéfice pour les humains d'un bien commun. Donc ça peut être très très différent. Par exemple, les services écosystémiques rendus par la forêt, ça peut être la production d'oxygène, ça peut être l'épuration naturelle des eaux. Le service écosystémique d'une prairie, c'est aussi une biomasse qui nourrit des animaux, donc les pâturages ou les animaux sauvages aussi. Enfin, donc aujourd'hui, on prend en compte, enfin, on a cette, je dirais, au plus haut niveau, c'est-à-dire que l'ONU, par exemple, essaie d'évaluer les écosystèmes. L'idée c'est de dégager, de façon peut-être à ce que l'être humain le prenne plus au sérieux, de dégager la valeur économique de ce service écosystémique qui nous est rendu par la nature. Et je crois que ça c'est important parce que très souvent l'écologie ou le souci de l'écologie est considéré comme quelque chose qui coûte de l'argent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on souhaite mettre en place quelque chose qui protège la nature. La question est combien ça va nous coûter. Or, en fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est que la nature rapporte beaucoup en service à l'être humain. Et ça, ça n'est pas quantifié économiquement parlant, ça n'est pas quantifié. Une des idées, donc, à travers ces programmes d'évaluation qui veulent être mis en place, c'est d'afficher l'importance des services qui sont rendus à l'être humain par la nature. Et donc, de rééquilibrer cette idée que quand on protège la nature, c'est quelque chose qui a un coût. Au contraire, c'est quelque chose qui va nous rapporter non seulement en qualité de vie, mais aussi en possibilité de vie à plus long terme, mais aussi en rendu immédiat. La pollinisation des vergers par les insectes, par les abeilles, etc., c'est un rapport évident. Voilà, je voulais un peu parler de ces aspects-là, parce que effectivement, aujourd'hui, on arrive à un moment où il y a donc comme ça des normes. Par exemple, là, on arrive en saison d'été. Donc la question de l'eau sur le département se pose chaque année sur les diminutions de quantité. Donc on a par exemple les autorisations de prélèvement qui sont faites pour les agriculteurs. Et puis arrive un moment où on a des plans de sécheresse. Lorsqu'on voit que les débits des différentes rivières sont en baisse, et lorsque on a un débit, là, ce qui se produit en ce moment, on a trois petites rivières qui commencent à baisser en termes de débit. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des arrêtés qu'on appelle les arrêtés sécheresse, qui font que tout prélèvement doit être diminué, bien sûr, puisque on voit que la ressource est en diminution et que les rivières ont besoin d'un niveau minimal pour pouvoir fonctionner. C'est-à-dire que, mis à part certaines rivières du département, donc qui sont sur des caractéristiques méditerranéennes, donc où effectivement il reste une vie malgré le fait qu'on a l'impression qu'elles sont complètement à sec à certains moments, chaque rivière a tout de même besoin de conserver un débit minimum pour que la vie qui est à l'intérieur, que les poissons et les autres animaux, insectes, etc., puissent continuer à vivre, effectivement. Donc on a là un équilibre nécessaire entre possibilité de prélever et puis nécessité de laisser une partie de l'eau dans la rivière.
Est-ce que les citoyens sont sensibilisés en général à ça? Est-ce qu'on remarque quand il y a des arrêtés sécheresse, il y a des contrôles
C'est parfois compliqué, effectivement, parce que chacun veut bien voir le problème.
Mais en même temps, veut préserver ses petites fleurs dans le jardin.
Voilà. Ou bien vider sa piscine et la remplir. Il y a comme ça.
Et il y a beaucoup de piscines dans le département, évidemment.
Oui.
Ça, c'est aussi un problème.
Complètement. Donc, c'est aussi quelque chose qui a un impact sur la consommation d'eau. Et pour lequel, effectivement, il est nécessaire que chaque citoyen se rende compte de l'importance. Alors, on le sait un petit peu théoriquement, mais en fait, dans le concret, parfois, ça échappe. Par exemple, parmi les mesures qui ont été mises en place, notamment avec le Grenelle de l'environnement, il y a ce qu'on appelle la nécessité de maintenir, la mise en place de la trame verte et bleue.
Donc, alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, voilà. La trame verte et bleue, trame verte, ça concerne la terre et la forêt, etc. Donc tout ce qui est terrestre. Et la trame bleue, bien sûr, c'est l'eau et rivière et mer. L'idée, c'est qu'en fait, les espèces, les différentes espèces, quelles qu'elles soient, ont besoin pour conserver un niveau de santé important de ce qu'on appelle les échanges génétiques. C'est-à-dire que une espèce qui est enfermée dans une zone trop restreinte va se reproduire en circuit fermé, je dirais. Et donc ça entraîne un affaiblissement de l'espèce et ça peut entraîner sa disparition à plus long terme. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire qu'il y ait des corridors biologiques entre les différents lieux qu'on appelle réservoirs de biodiversité, qui en gros sont des zones où il existe telle ou telle vie, telle ou telle espèce, oui. Etc. Et donc, ce qui est important, et notamment aussi par rapport au changement climatique, c'est-à-dire que le changement climatique va obligatoirement obliger certaines espèces à migrer, à changer de zone de vie. Oui. Et donc, pour pouvoir migrer, il faut qu'il y ait effectivement des routes. Mais les routes des autres espèces que l'espèce humaine ne sont pas des routes bétonnées, bitumées. Ce sont au contraire alors des rivières, des zones en friche, des zones des corridors qui leur permettent de circuler. Et donc de changer de lieu de vie ou de rencontrer une autre variété de la même espèce, etc. Et donc cet aspect-là est extrêmement important. Et on s'est rendu compte, donc, et aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement de conserver toute cette trame ou de la rétablir lorsqu'elle a été détruite. Et donc là, on voit tout un travail qu'il y a à faire justement pour rétablir ces cheminements, que ce soit dans les rivières pour les poissons, que ce soit sur la vie terrestre pour tous les autres animaux, donc depuis les crapauds, les grenouilles, jusqu'aux sangliers, par exemple. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, ce à quoi on ne pense pas forcément, c'est que selon l'espèce, la barrière n'est pas la même. Et il y a par exemple des barrières qui peuvent être des barrières invisibles pour nous. Ça peut être des odeurs, ça peut être des pesticides. Mmh. Pour un insecte, un champ de quelques hectares qui est effectivement nettoyé, ça peut être une barrière pour aller plus loin. Ça peut être aussi des barrières lumineuses. Donc, une rue, une ville ou une zone extrêmement éclairée peut être une barrière pour certaines variétés ou certaines espèces animales. Donc, effectivement, tout ça, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de réfléchir. Et puis, l'important, c'est comment mettre en place des éléments qui permettent de rétablir ces circulations pour les animaux. Et c'est vrai que, au niveau de la question de l'eau, par exemple, on a ce qu'on appelle les zones humides. Donc, les zones humides, tous ces secteurs, donc depuis les tourbières, les bords de rivières un peu spongieux, les ripisies, etc. Mais enfin, une zone humide, c'est dès qu'il y a un peu d'eau quasi permanente, une végétation particulière se met en place, une faune particulière aussi. Et on s'est rendu compte, en France par exemple, 25% de la biodiversité appartient aux zones humides, enfin, donc c'est extrêmement important. Et on s'est aperçu que, de par nos activités, on a diminué énormément toutes ces zones humides. On a, alors, on, peut-être dans, en 10 ans, depuis 1994, je crois qu'on est à 50% de diminution des zones humides depuis les années 90. Donc, pour diverses raisons. Des assèchements, drainage pour remettre en place des cultures, par exemple, mais aussi par des pollutions qui ont supprimé certaines autres, par de l'urbanisation, par de la réorganisation, du bétonnage de certaines zones, etc. Donc tout ça, c'est une diminution de la richesse qui nous est apportée au départ. Et c'est quand même important d'essayer de, aujourd'hui, de stopper un peu certaines pratiques, peut-être d'aller vers plus de raisons dans ce qu'on fait. Et donc, sur les cultures, c'est quelque chose qui peut être important. Je veux dire, pour nous, zone de Provence, la réflexion sur les cultures à privilégier, qui ne soient pas trop gourmandes en eau, essayer de choisir des irrigations qui sont au contraire, qui permettent d'utiliser moins d'eau. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire et justement sur les piscines, que les gens réfléchissent à ce que ça signifie, à quelle utilisation et quelle quantité d'eau pour une famille alors que ça devient une ressource difficile, rare, enfin, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement important aujourd'hui à mettre sur la table et à réfléchir.
Par rapport à la pollution et les pesticides, où est-ce qu'on en est avec les agriculteurs? Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire autrement que d'utiliser les pesticides pour voir survivre et produire
Bien, on a des agriculteurs qui ont fait des choix différents et progressivement ces idées. Que l'agriculture biologique n'est pas productive, que il est impossible de faire autrement, etc. Ces idées-là sont, je pense, remises en question et avec des faits objectifs. Alors c'est vrai que il est toujours difficile de mettre en place, d'arriver à mettre en place des changements de pratiques, des changements de point de vue. La formation des agriculteurs, aujourd'hui encore, est faite avec un certain nombre de prérequis, un certain nombre d'idées, et puis avec aussi, bon, ne pas oublier que le lobby des producteurs de pesticides, insecticides et herbicides est quand même très très important. Je veux dire, on a là tout juste réussi à éviter que soit pris, enfin, un arrêté autorisant les produits de Monsanto, donc les nicotinoïdes. Mais c'est, enfin, le décret, la décision est prise, mais la mise en œuvre est reportée dans quelques années. Déjà ça, enfin, c'est extrêmement,
c'est très,
extrêmement
très long
compliqué.
Avant de...
C'est très long. Et ça nécessite, enfin, c'est très douloureux, c'est très difficile d'arriver effectivement à faire évoluer l'état d'esprit par rapport à cette chose-là. D'autant que les discours sont toujours sur l'aspect l'humanité est en croissance, donc il faut nourrir l'humanité, donc il faut produire plus. Mais avec, effectivement, à certains autres moments, des produits qui sont jetés ou détruits, Et donc pas tellement d'impact finalement de la surproduction sur l'état de bien-être de l'humanité si on regarde sur un sens global. Mm-hmm. Donc là aussi, il y a un cheminement à faire en termes de réflexion et bon, on espère que ça se met en route, mm-hmm. mais c'est toujours un peu compliqué.
Ça va être l'heure de se quitter. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impératif pour le mot de la fin de cette émission? Et puis on essaiera d'avoir des rendez-vous réguliers pour voir les actions du FNE04.
Oui, alors le mot de la fin, je ne sais pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est que effectivement on puisse, à travers notre action, arriver à ouvrir un peu l'état d'esprit et que ces questions-là soient vues sous un autre angle et que ça ne soit pas vécu comme une sorte de guéguerre entre écologistes et industriels, écologistes et agriculteurs, écologistes et citoyens. Je veux dire, je crois que les actions que l'on mène sont pour nous une réponse aux besoins de tous et pour tous.
Martine Vallon, merci. Et puis on se retrouve donc sur le festival Inventaire avec vous donc le 8 juillet. Ce sera donc, on rappelle.
Pour la promenade donc le 8 juillet. Donc le rendez-vous est à 9h. Le départ est à 9h au Palais des Congrès.
Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance et où?
On peut demander plus d'informations au 06 56 77 75 84 ou bien par mail à contact@fne04.fr. contact@fne04.fr. Donc là, il faut... S'inscrire, c'est toujours préférable, mais ce n'est pas absolument indispensable. Et simplement prévoir des chaussures de marche, de l'eau et un chapeau.
Merci, au revoir.
Merci.